le ressort, j'insiste, c'est le mot de déclassement. C'est-à-dire que il y a notamment dans les classes moyennes, c'est un lieu, évidemment, c'est une expression qui peut paraître floue et qui recouvre des réalités extrêmement diverses. Mais ces classes moyennes, néanmoins, étaient habituées à penser que pour eux et pour leurs enfants, l'après-demain serait meilleur qu'aujourd'hui. Qu'il y avait un espoir et qu'il ne s'agissait pas sûrement pas dégringoler l'échelle en marche arrière, mais qu'ils pouvaient progresser. Et ça se traduit en langage de sociologie élémentaire, car je ne suis pas dans ce registre, par un sentiment qui s'est élargi de déclassement. Ça va être moins bien, voire pire, pour mes enfants, pour mes petits-enfants. Moi-même, je ne suis plus dans la situation que vivaient mes parents. Alors attention, tout ça, il n'y a pas de baguette magique à l'Élysée, et vous l'avez dit tout à l'heure, ça vient de loin et tout. Mais c'est le problème, c'est une société qui au fond, c'est là qu'il faut faire attention, n'a plus confiance, et s'il y a un basculement des dites classes moyennes qui ont le sentiment qu'il n'y a pas nos futurs. Hein, à ce moment-là, tout est possible, parce que au passage, quand on décrit, j'arrête là, mais je veux juste dire, quand on décrit la situation, il n'y a pas d'alternative.
C'est presque
pour
le nihilisme que vous décrivez.
Oui, enfin, le pessimisme. Non, je veux pas dire. Non, n'allons pas jusqu'au nihilisme.
L'absence
quand même.
Il y a
une angoisse. La société française aujourd'hui, elle est terriblement angoissée.
Une illustration pour à l'appui de ce que dit M. de Montvallon, il y a des études sociologiques aujourd'hui sur, par exemple, les familles de la classe moyenne, on a dit à quel point ce concept était flou, navré, qui vit dans des zones pavillonnaires autour d'Amiens, en Picardie, qui vivent convenablement, qui sont aujourd'hui en phase de renoncement aux études supérieures de leurs enfants. Ils ne peuvent plus financer, alors qu'ils sont tous les deux salariés en CDI, ils peuvent gagner autour de 3 500-4 000 euros à deux, ils ne peuvent plus payer d'études supérieures à leurs enfants.
Une région dont sont originaires à la fois Emmanuel Macron et François Ruffin, deux des figures du mois qui vient de s'écouler.
À tout ça s'ajoute un sentiment de grande dépossession, je pense, mais qui rejoint les phénomènes qui viennent d'être décrits. Parce que non seulement avant, effectivement, il y avait un horizon, mais il y avait aussi le sentiment d'avoir la conduite de sa vie, d'avoir un pouvoir sur la conduite de sa vie, de choisir pour ses enfants, pour soi-même. Et aujourd'hui, non seulement les gens se sentent dépossédés de cela, mais en plus ils sont face à des politiques qui leur expliquent que tout n'est pas possible, qu'il y a de l'impuissance. Et typiquement, l'exemple des GAFAM, il est excellent et consternant à la fois. C'est-à-dire qu'un politique aujourd'hui en France va devoir dire à ces gens, désolé, on ne peut pas taxer les GAFAM, ce n'est pas possible, c'est vous qui allez payer les impôts.
Il y a des choses que l'État peut faire dans la suite de ce que vous dites, c'est quand même, j'y reviens, la fiscalité comportementale, parce que précisément, on impose aux gens des comportements, et deux, par exemple, peut-être en faire un peu moins sur la fiscalité écologique et sur la fin du monde demain matin.
Oui, enfin, en même temps, c'est une réalité qu'on peut difficilement ignorer lorsqu'on pense aussi à l'avenir des enfants. Enfin, c'est difficile à la
fois
de...
La prise de conscience est montante sur cette question-là. L'un des mots d'ordre des Gilets jaunes, c'est que les petits payent petits et que les gros payent gros. Et le sentiment que c'est pas comme ça que ça se passe dans un pays qui a une passion égalitaire comme la France, ça ne passe pas. Et je pense que c'est ça qui est vraiment au cœur de la passion française, de cette passion qui a déclenché ce mouvement-là. Dans l'inconscient collectif, c'est cela qui l'a déclenché.
Justement, pour faire payer davantage les gros, faire en sorte que les grandes entreprises, les multinationales notamment, n'échappent pas à l'impôt national, faire en sorte aussi que la France peut-être gagne davantage de marge de manœuvre dans les projets qu'elle veut entreprendre, y compris d'ailleurs peut-être les annonces que va faire ce soir le chef de l'État. Est-ce qu'il faut qu'Emmanuel Macron partent en guerre contre Bruxelles, en tout cas qu'ils renégocient avec l'Union européenne un certain nombre de choses, avec évidemment le risque que ça remette en cause sa stratégie vis-à-vis de l'Allemagne, Mathieu Chêne.
Alors, aujourd'hui, le socle d'Emmanuel Macron, il est lié néanmoins à l'idée que c'est un Européen convaincu qui peut faire changer les choses en Europe. Il bénéficie d'environ 20 à 23% dans les intentions de vote de la part de Français qui sont pro-européens et qui croient dans l'Europe, qui pensent que l'Europe a amené la paix et qui pensent qu'il n'y a pas d'autre solution que européenne. S'il venait à changer de pied et à faire de l'Europe son ennemi, ce serait douteux par rapport à ses convictions initiales qu'il a exprimées à maintes reprises. Et ce serait aussi compliqué en termes électoraux parce que ça créerait un revirement vis-à-vis de tout son socle qui lui reste et qui est maigre à 20-22%. Donc on ne voit pas aujourd'hui quelle autre marge de manœuvre il a que de réaffirmer son engagement européen et d'essayer de trouver un équilibre extrêmement compliqué entre les injonctions contradictoires, des Français qui veulent effectivement moins d'impôts et en même temps des Français qui ne veulent pas remettre en cause les différents sujets sur lesquels éducation, santé, sur lesquels ils ont l'impression que l'État n'investit pas assez. Je reviens juste sur ce point. Extrêmement intéressant, on demande aux Français, est-ce que vous voulez réduire la part des impôts ? une grande majorité dit oui, il est essentiel, il est vital de réduire parce que nous sommes aujourd'hui trop imposés. Parfait. Seconde question, où est-ce que l'on réduit santé, sécurité, à chaque fois sur tous les sujets, 90, 80, 90% des Français nous disent impossible de taper sur ces sujets-là. Donc c'est cette injonction contradictoire qui est aujourd'hui, notamment dans les mains des Français et des Gilets jaunes, qui veulent à la fois moins payer d'impôts et en même temps plus...
Est-ce que la solution... n'est pas contradictoire. On dépense 280 milliards d'euros de dépenses publiques de plus que l'Allemagne rapportée à la même population. Je ne sache pas que les Allemands soient absolument sous-administrés. Donc je veux bien qu'on nous dise que, par exemple, prenons l'éducation, on a 36 000 communes, enfin moins 35 500. Chaque village veut son école. Considérons que ça fait partie du pacte politique. Voilà, ok, ça a un coût de 60 milliards. On les met. C'est un choix politique que les Français font. Très bien. Il reste quand même encore beaucoup de gras. Je veux dire, on sait où il est le gras quand même aujourd'hui dans la fonction publique et dans l'appareil d'État. Évidemment qu'il n'est pas dans les profs et les infirmières. On sait très bien où il est dans les strates administratives. On sait très bien où il est, je veux dire, au ministère de l'Éducation nationale. J'y reste. Là où en Allemagne, pardon, il y a un employé administratif pour un prof. Il y en a 2,7 en France. Là, il y a du gras.
Mais donc, ça veut dire
arrêtons accepter... de dire que c'est contradictoire de demander moins d'impôts et des services publics. N'est pas contradictoire.
C'est pas moi qui le dis, mais c'est les Français qui l'expriment ainsi. Et je vois mal.
Oui, mais les commentateurs disent que ce sont des aspirations contradictoires.
Et je vois mal Emmanuel Macron dire ce soir vous voulez effectivement moins d'impôts et je décide de supprimer tant de postes, 100 000, 200 000, 300 000.
Non, en revanche, il n'est pas maso à ce point-là.
Voilà. Mais en revanche, il y a une grande décentralisation.
Si on va jusqu'au bout de votre raisonnement, ça veut dire s'il y a du gras, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des postes en trop.
Et puis,
si on
va jusqu'au
bout, ça veut dire qu'il faut supprimer des impôts.
Pas demain matin, il fallait le faire sur un quinquennat.
En parlant de il y a celle qui est beaucoup reprochée aux Gilets jaunes par le gouvernement et par beaucoup de commentateurs qui était ils veulent à la fois moins d'impôts et plus de services publics. Mais je ne pense pas que ce soit le fond du message en réalité. Je pense qu'il est plus complexe que ça et qu'on veut ridiculiser ce mouvement en simplifiant.
Ils veulent faire payer les riches, les choses. Est-ce que ce n'est pas ça la vraie réponse?
Ils veulent surtout, à mon avis, ils ont l'impression de payer trop d'impôts par rapport aux services publics qui reviennent à eux. Aux services publics visibles pour cette population-là. Je crois que là est l'exact terme du problème. Donc il est caricatural d'estimer que ces gens sont contradictoires dans leur raisonnement et qu'ils veulent à la fois le beurre et l'argent du beurre. Ils pensent...
Ils veulent le rétablissement de l'ISF pour certains.
Ils pensent, oui, mais parce que quand votre revenu disponible, quand vous regardez la récente étude de l'Institut des politiques publiques où l'on montre que le revenu disponible des plus pauvres a en réalité baissé depuis le début du quinquennat d'Emmanuel Macron et que, évidemment, par le fait de la fiscalité liée à l'ISF et à la flat tax, c'est le revenu des 1% des plus riches qui a énormément augmenté. Certes, ça ne concerne pas beaucoup de personnes, mais quand vous voyez ça sur un graphique alors que vous gagnez 1 200 € net par mois, forcément, on se retrouve avec ce type de message. Mais plus profondément, je pense que les gens ne voient pas en réalité de façon suffisamment lisible pourquoi ils payent, pour qui ils payent et surtout comment revient cet argent, sous quel service public, pour quel territoire. Et la réforme de la SNCF, on a beaucoup discuté du statut des cheminots, à mon sens, le vrai sujet était les petites lignes. On taxe le diesel, on dit aux gens qu'il va falloir trouver des alternatives à la voiture, mais dans le même temps, vous voyez le nombre de petites lignes qui étaient assurées par un service public du transport avant fermé dans les territoires les plus reculés pour des raisons qui sont en réalité économiques, puisque dans une logique de privatisation, il faut effectivement être rentable. Mais un service public ne doit pas être rentable. Ce n'est pas son injonction première. Voilà la contradiction dans laquelle s'enferme ce type de gouvernement.
Ce qu'il faut conduire, ce n'est pas une révision générale des politiques publiques comme sous une forme...
Non, on a déjà essayé.
C'est une révision générale des missions de l'État. Qu'est-ce qu'on veut que l'État fasse? Qu'est-ce que les Français sont prêts à payer? Les écoles ou les petites lignes, vous avez raison. C'est un pacte politique. Et qu'est-ce que d'autres acteurs, je le redis, peuvent faire, les collectivités, le monde privé, le monde associatif, etc. Il y a des choses que la puissance publique pourrait ne plus faire ou moins faire.
On voit déjà en tout cas fleurir sur les réseaux sociaux des appels à un acte 5 de ces manifestations des Gilets jaunes, autrement dit un nouveau défilé samedi prochain sur les Champs-Élysées.
C'est un mot diplomatique.
Rassemblement. Parfois, non,
pardonnez-moi,
parfois dans la violence.
Je
rassemblement, parfois. Non, non, parfois dans la violence.
Dénoncer les choses, mais bon.
Et qui donne lieu, on l'a vu, à des débordements, puisque 1000 personnes ont été, un peu plus de 1000 personnes ont été interpellées, dont 974 placées en garde à vue. C'est du jamais vu. Combien de temps ça peut durer encore, d'après vous? Et est-ce qu'il ne faut pas craindre même une lassitude à un moment des policiers, des gendarmes et des CRS eux-mêmes?
On peut la craindre, on peut espérer qu'il y ait une certaine lassitude, fait de la provoque, de la part des Gilets jaunes. Qui ne sont pas, je le dis à Louis Hosselter, par rapport à son analyse globale à l'instant, je la partage tout à fait, mais le point de départ m'a surpris. Les Gilets jaunes, le moins qu'on puisse dire. 4 ou 5 dernières semaines.